Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec José, on parle de finances publiques. Bien évidemment, il y a certains sujets de la semaine dernière que notre cher José, vu que c'est ça, il était dans sa rotation, il n'avait pas le temps de jaser. Il voulait nous en parler cette semaine, autant du budget fédéral, autant notre cher ami Éric Girard qui a décidé de suivre le gouvernement de Justin Trudeau, parce que bien sûr, la technique du voisin gonflable, si le voisin achetait une grosse tondeuse, tout d'un coup, moi tout j'en veux une, même si je n'ai pas de besoin. Fait que l'augmentation de l'imposition pour les gains en capital. Et également, plein d'autres sujets. Je sais que tu voulais également nous parler pour ce qui est de la course aux conservateurs. Éric Lefebvre, qui est rendu candidat pour Arthabasca aussi. Écoute, multiples de sujets ce matin qu'on parle dans En toute liberté. Salut, José.
Salut, comment ça va?
Yes. Ouais, on est dans... C'est un peu rendu quasiment une vieille joke. On est dans le trou.
Oui, oui, puis la manière que c'est parti d'après moi, on s'en sortira pas demain matin. Là.
Non, on est rendu même dans le trou du trou. C'est on peut pas être plus profond que ça. Là.
Écoute, le gouvernement fédéral, le dernier budget, là, sûrement que vous n'avez parlé sur vos diverses plateformes, Yann et Frank et compagnie, mais je ne sais plus aucune commune mesure. Encore 40 milliards de déficit. Et non seulement 40 milliards de déficit pour cette année, l'année prochaine, ça va être sensiblement la même chose. Et on a des déficits jusqu'en 2029-30. Aucun plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. C'est une catastrophe. Je veux dire, la dette fédérale actuellement est de 1 milliard 386 millions. Quelque chose qui s'apparente à ça. Je veux dire, un chiffre épouvantable. Puis je ne vois pas comment on va faire ensemble, collectivement, pour se sortir de ce trou-là. Alors qu'aux États-Unis, il y a quand même, malgré la dette immense des Américains, il y a quand même une bonne vigueur économique. Tandis qu'ici, ben, on ne sent pas ça. Il n'y a personne qui s'enrichit. On n'a pas l'impression qu'on va s'en sortir. Et tu sais, Joey, depuis 2015, depuis l'arrivée de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral, comme gouvernement, je veux dire, c'est une catastrophe, là, les finances publiques. Tu sais, on comprend que des fois, on peut s'endetter pour relancer l'économie, mais lorsque tu n'as plus de moyens de t'endetter pour relancer l'économie, et lorsque, par ailleurs, c'est tes politiques qui ont fait en sorte que l'économie va mal, c'est clair qu'il faut changer de gouvernement.
Oui, absolument. Puis écoute, c'est parce que c'est ça, ce que je dis souvent de plus en plus, c'est même plus une question de... J'écoutais aujourd'hui Bob Côté qui parlait avec Emmanuel Latraverse, dans le sens que Pierre Poilievre, il dit... Ah, Pierre Poilievre, il est polarisant, parce qu'en gros, elle n'arrêtait pas de dire... En gros, les médias traditionnels trouvent que Pierre Poilievre est polarisant, mais Trudeau fait autant de polarisation, même Jack Maxing, mais lui, c'est pas pareil. C'est comme... elle expliquait un peu que moi, mais lui, quand il attaque Trudeau, c'est pas une attaque vis-à-vis les politiques, c'est comme des attaques personnelles, puis qu'il n'y a plus de respect entre les individus. J'ai dit, tabarouette, un gars qui double la dette du Canada... Puis que dans le pire budget qu'il n'y a pas, il renchérit, puis il condamne la future génération à être endettée comme le cul. Excuse-moi, mais ça mérite tout sauf mon respect. Là.
Absolument.
Puis comme je dirais l'autre, que même des gens comme Philippe Couillard, qu'on avait reçu ici dans le podcast il y a plusieurs mois, disaient, même moi qui est un social-démocrate, qui est un gars plus de centre-gauche, qui veut de beaucoup de programmes sociaux, même la gauche d'une certaine époque, ce que j'appelle personnellement la gauche Marie-France Bazot,
ouais,
était assez brillante pour se rendre compte qu'autant on peut être de gauche, autant on veut des services publics, autant on ne veut pas nécessairement couper des impôts, puis on veut avoir des impôts, des taxes, des impôts élevés. Mais il n'était pas cave dans le sens qu'à force de dépenser, ça prend quand même de la productivité, ça prend quand même de la croissance économique.
Faut que ça marche!
Parce que pour que ça marche, il faut que ça perdure dans le temps. Parce qu'à un moment donné, c'est que tu dépenses tout le cash, mais tu penses uniquement à court terme, tu ne penses pas à long terme.
Non, mais le Parti libéral, le gouvernement libéral, c'est une myriade de gens incompétents. On va se le dire, là, je m'excuse, je t'ai interrompu, ouais. Il y a eu un délai. Mais je veux dire, ça n'a plus aucune commune mesure, là, la direction qu'on a prise au fédéral. Je veux dire, je ne vois pas de la manière qu'on va être en mesure de sortir de tout ça. Puis même lorsque va arriver le gouvernement Poilievre, parce que ça risque d'arriver actuellement, ils sont 20 points en avant sur les libéraux, ça va être tout un exercice de rétablir les finances publiques. Puis j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, parce que si tu regardes tous les pays occidentaux de la manière que c'est géré, à ma connaissance, il n'y a pas un pays du G7 qui va très bien.
Non, absolument pas. Là. Puis disons que pour diverses raisons, les Américains, c'est que justement, même hier, ils ont encore... Je ne montrais pas d'extrait, là, mais tu voyais tout le caucus démocrate à la Chambre des représentants qui ont encore fait passer un autre 60 milliards d'US à l'Ukraine. Puis ils étaient tous dans la chambre avec le petit drapeau ukrainien à à brandir ça comme des tarlats. Tu sais, c'est pas une question d'aimer ou pas d'aimer l'Ukraine, puis de dire que les gens-là, là-bas, ne souffrent pas. C'est que tabarouette, regardez ce qui se passe en ce moment, là. Les États-Unis crient pour avoir un retour du financement sur leur propre terrain au lieu d'envoyer ça à la bourse ouverte. Mais c'est ça qui c'est le deux poids, deux mesures. Pourquoi tu ne veux pas réélire Joe Biden? Parce que justement, quand il arrive des catastrophes naturelles, comme ce qui est arrivé à Hawaï, qui est en sol américain, on donne aux sinistrés à peine 700$ US en assurance, mais un pays étranger qui fait une guerre de proxy contre nous autres parce que Raytheon, puis Lockheed Martin, toute cette gang-là, puis le complexe militaro-industriel est là-dedans, là, on envoie 60 milliards. C'est pour ça que le monde ne sont plus capables, puis ils veulent réélire Trump. Ah, le gars, il fait des machins en tweet, il faut réélire Biden. As-tu vu le bonhomme? Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu ça. C'est, autant des pays du G7, puis autant qu'on peut parler de Trudeau en masse, puis dire que c'est un innocent, c'est pas nouveau, puis le gars, c'est pas compté. Mais monsieur, les budgets s'équilibrent d'eux autres même. Mais d'autres sont pas mieux, là. Autant que je vois que le Japon a l'air tranquillement de se reprendre un peu. Les États-Unis, toujours dans le chenot, parce que justement, leur dette, c'est quasiment. Ils peuvent se permettre d'être endettés, mais ils ont les propres problèmes de le vendre.
Ils vont pogner une limite à un moment donné aussi. Ça marche pas. Je pense qu'à tous les 100 jours, il faut qu'ils revotent pour refinancer la dette, quelque chose de même, là, parce que ça n'a aucune commune mesure. Ça regarde au Canada, je veux dire, lorsque Stephen Harper est parti, que Justin Trudeau est arrivé, on savait que Justin Trudeau allait peut-être faire des déficits, mais on ne pensait pas que ça allait être aussi grave que ça. Je veux dire que tu fasses certains déficits, comme exemple, là, dans le dernier budget, si on avait eu un déficit de 3,2 milliards, on se serait dit, ils ont fait des efforts, puis c'est quand même pas si mal. Là, c'est 40 milliards l'année suivante, ça va être 38, après ça, 32, quelque chose du genre. On en a jusqu'en 2030. Je veux dire, puis en plus, la manière qu'ils ont arrangé ça, ce qu'on appelle la comptabilité créative, ça veut dire qu'ils ont des projets ou des programmes qui vont remettre aux autres années, qui vont péter les problèmes par en avant, d'autres termes. Ben je veux dire, on ne voit plus le bout du bout de se sortir de ça.
Il est rendu, on dirait qu'on a une... Parce que là, c'est l'ère du temps. Ça prend des investissements cibles, d'investissements en santé, de l'investissement en environnement, puis en transport collectif, puis de ci, puis de ça. C'est tout le temps, toujours plus. Mais t'as Ginette Renault, un peu plus haut, un peu plus loin, toujours. Tu sais, c'est ça. Fait que là, on dirait qu'on a comme perdu la logique que des fois, faut couper. Des fois, faut prendre un peu de recul. Des fois, faut ralentir. On est tellement été sur le nitro pendant tellement longtemps que juste le fait de descendre, mettons, à 120 km au lieu de 200, on trouve, tu sais, ben, on l'a tout vécu. Vous savez, quand vous quittez l'autoroute 20 ou n'importe quelle autoroute à 120 km/h, vous prenez la sortie, vous tombez à 50, vous trouvez que vous roulez lentement, tabarnache. Hein? Tandis que si vous roulez à 50, ben, vous quittez chez vous, vous trouvez ça vite. Ben, c'est un peu la même affaire. On a comme perdu cette logique-là de. Un peu comme les Américains appellent ça le check and balance, mais en fait, c'est vraiment le. Justement, l'équilibrage en tout ça, c'est non, toujours plus. C'est comme
le si, sens commun.
C'est ça, le common sense. Gros bon sens. La dette, c'est juste un chiffre, puis c'est pas grave, on endette ça. C'est sur le to-do list, mais on verra ça après. On met la poussière en dessous du tapis, puis ça, c'est pas tant pire que ça, mais rendu que le tapis, il est rendu qu'une butte tellement que la poussière est dedans.
Ah non, non! Mais tu te souviens à l'époque, peut-être que t'étais pas au monde, tu te souviens de neige, je me souviens pas quelle date t'es né, là, mais à l'époque, Brian Mulroney, là.
Non, je t'ai pas né.
J'étais bien jeune moi aussi, là. On a mis en place la TPS. C'était un scandale à ce moment-là, les libéraux d'époque.
Taxe qui est désormais entièrement conçue pour payer l'intérêt de la dette.
Exact! Qui est consacrée à l'intérêt de la dette. Juste l'intérêt de la dette, c'est 50 milliards. C'est quoi? C'est 5 fois le budget de l'armée, de la défense nationale. Je ne sais pas.
J'ai pas regardé les chiffres.
Non, moi non plus, il me semble que c'est quelque chose. C'est plus gros que la défense nationale. Ça n'a pas de bon sens. Là, en plus, on a une armée qui semblerait-il, que tu sais, je veux dire, l'armée canadienne depuis des années, c'est pas réputé comme étant l'armée la mieux équipée. Sauf qu'on a des bonnes disciplines, ça je le sais, mais il n'en demeure pas moins que, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre le sens, comment je te dirais. Tu sais, il faut remettre en place des priorités, là. Ça n'a pas de bon sens. 50 milliards d'intérêts par année juste pour payer pour la dette, pour payer l'intérêt sur la dette. Écoute, ça va être quoi l'année prochaine? Parce que c'est sûr que ça va toujours augmenter. Si ça augmente, ça veut dire que cet argent-là, on pourrait la mettre ailleurs si c'était bien géré. alors qu'on n'est pas bien géré. Ce qu'on va faire, on va continuer à emprunter. On va continuer à emprunter. On va continuer à emprunter. Mais c'est qui qu'on enrichit pendant ce temps-là? Le peuple s'appauvrit. On sait que le Canada s'appauvrit. La classe moyenne s'appauvrit. On
a connu récemment. Un peu plus que s'appauvrir, elle disparaît,
la classe moyenne. Oui, t'as entièrement raison.
Les extraits, quand c'est rendu qu'aujourd'hui, le top 1% des plus riches, c'est le monde qui gagne 75 000 par année. Puis des articles de journal nous disent que le 100 000 à 2 par année, c'est le nouveau 50 000. Là.
Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le Canada? Sincèrement, on sait, on est deux indépendantistes. Malgré tout, le Canada, j'avais quand même un respect. Là. Je veux dire, c'était pas le pire pays au monde. Qu'est-ce qui est arrivé avec le Canada? Je veux dire, c'est rendu qu'on est une risée à l'international. On se fait rire de nous autres aux États-Unis. Les gens pensent réellement qu'on est dans le socialisme. Et on est dans le socialisme, mon fédéral.
Oui.
On s'en cachera pas. Là. On est rentré dans le socialisme. On a les deux pieds dedans présentement.
De tous les podcasts internationaux que j'écoute, que ce soit américain, européen, australien, name it, le Canada, même de l'Inde, le Canada a un aura de communisme autoritaire. Et en gros, c'est que justement, si la gauche va trop loin, le Canada est rendu vraiment un exemple décadent et out, c'est carrément dans le champ puis dans le fossé, là, de politique multiculturaliste, de genre d'État post-national scrappé. On est comme un genre d'expérimentation, quasiment on est comme le premier pays, j'allais dire occidentaux, à s'être rendu à ce point de bascule-là extrême. Absolument. De débauche. Oui. On est rendu quasiment un sorte de checkpoint d'avertissement pour les autres nations. Ben, rendez-vous pas aussi qu'on est là, parce que regardez comment c'est rendu de la chenoute notre pays, alors que même pas 15-20 ans, on était reconnu comme un pays le fun. On était quasiment le good guy de quasiment le trois quarts des nations à l'ONU. À ça, tout le monde nous regarde tout croche.
Oui, puis on avait un poids à l'international. Je veux dire, en politique internationale, on est une puissance moyenne, sauf que puisqu'on a eu des bons premiers ministres, ben, tu sais, des premiers ministres qui avaient quand même de l'impact. Je fais allusion depuis... Lister B. Pearson, Diefenbaker, ben, Pierre-Éliott Trudeau, malgré tout, était quand même...
Le soft power était fort, malgré
exactement. M. Chrétien, qui avait quand même un impact. Brian Mulroney, on le sait, là, avec l'apartheid et compagnie. On avait une influence et on était reconnus comme étant des bons médiateurs. Maintenant, on fait même plus partie de l'équation. C'est pas des farces. Je veux dire, il va falloir qu'il se passe de quoi, sincèrement, parce que j'ai pas l'impression qu'on va dans la bonne direction. Vois-tu, vendredi dernier, comme journaliste, j'étais à la manifestation à Sainte-Marie parce que moi, je couvre une partie de l'île, la MRC de l'île, c'est dans Chaudière-Appalaches. Je savais qu'il y avait des agriculteurs. Bon, oui, absolument. Donc, j'y étais parce qu'il y avait des gens de l'île qui étaient là.
OK, d'accord.
Fait que là, j'ai été faire mon tour là, puis c'est à peu près quoi, c'est...
J'allais dire du placoteux à Sainte-Marie, j'espère qu'ils t'ont remboursé ton gaz.
Ah ben non, ben oui, mon gaz est payé, je veux dire, j'ai un tarif pour l'essence, ça c'est clair.
Moi, il y a ça.
Peut-être qu'il va falloir le négocier avec la dernière hausse, ça c'est un autre problème, on en reparlera plus tard.
T'en jaseras à Pascal, à Maxime.
Ah, Maxime est parti en passant, il est rendu à l'UPA du bas du fleuve.
Ah, il est plus...
Ah, il est rendu au COM à l'UPA du Bas-Saint-Laurent, justement.
Ah, c'est clair, c'est un bon...
C'est un excellent journaliste. Il n'y a personne qui va me faire dire le contraire. C'est possiblement un des meilleurs journalistes.
Il est rendu à l'UPA.
Un des meilleurs journalistes de la régie régionale du Québec, à mon sens. Il avait gagné plusieurs trophées, peu importe. Là.
C'est plate, parce qu'il est rendu à l'UPA, tu me dis?
Oui, exactement.
Dans ma tête, c'est un downgrade, là. Mais en tout cas, c'est ses choix, c'est sa vie, on va respecter ça.
En tout cas, peu importe, j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce. Puis j'ai parlé avec plusieurs agriculteurs, puis j'écoutais aussi les discours qu'il y avait. C'était en face du bureau du député Luc Provençal, là, le député de la CAQ. Puis tu vois que les beaux sons, sincèrement, là, je commence à connaître un peu plus parce que j'avais rarement affaire à ces gens-là. C'est des gens qui se tiennent énormément. La fierté de la Beauce, là, c'est quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. J'ai surtout pas vu ça dans le bois du fleuve, ça je peux te le dire, là. Mais les beaux sons, il y a quelque chose qui... beaucoup, la fibre entrepreneuriale est extrêmement forte. Puis, comme je te dis, ils sont extrêmement solidaires. Donc, ils ne voulaient pas trop frapper sur Luc Provençal. Sauf que, tu sais, il y a un malaise. Là. Même Luc Provençal, tu sais, c'est lui qui représente ses intérêts à son gouvernement. J'ai l'impression qu'il ne pèse que peu. Là.
C'est le gars qui a été... Il faut le donner. Là. Il a quand même contredit, justement... Celui qu'on va parler plus tard dans l'émission, qui est l'ancien, mais l'ancien, il est toujours là. Mais non, c'est vrai, il a quitté ses fonctions.
Éric Lefebvre.
Oui, Éric Lefebvre, l'ancien whip du parti. Luc Provençal avait été à une entrevue à choix, puis il s'était fait taper ses doigts là-dessus. Puis le gars, on le sait, là, c'est rendu pas nécessairement un secret de polichinelle. Il a tenté, un peu avant les élections de 2022, d'être un transfuge pour le PCQ, mais comme lambiné trop longtemps, puis finalement, ça a fini que. à seconde. Il a attendu quasiment 6 mois de dambinage, puis le jour aussi qu'il est sorti pour dire je suis prêt à partir, ben, le PCQ il a dit ben, too late, my man. T'aurais dû décider avant. Fait que,
en même temps, en tout cas, je ne sais pas s'il y aurait de quoi faire du côté du PCQ, point de vue politique.
Bon, je pense qu'il est cuit, le gars. C'est
pas moi qui gère ça, mais toujours est-il que ça va vraiment, vraiment mal du côté de nos agriculteurs. Et là, ce qu'on voit, là, tu vas me dire que l'agriculture, c'est une compétence partagée, je pense, mais c'est davantage de provincial. Mais si je fais un lien avec le dernier budget fédéral, là, je veux dire, on met de l'argent dans des patentes, là, et, je veux dire, des affaires que tu ne sais pas pourquoi. En plus, il y a beaucoup de champs de compétences provinciales qui sont envahis par le fédéral actuellement, alors que cet argent-là pourrait beaucoup servir pour nos agriculteurs. Je veux dire, c'est une idée parmi tant d'autres. L'argent peut servir à bien des choses, mais l'agriculture, c'est extrêmement important. Mais mon cher ami, je ne sais pas ce qui s'en vient. J'ai l'impression que ça va brasser. Regarde ce qui se passe en Europe, ça brasse énormément. C'est clair qu'on commence à voir ça ici. Puis j'ai quand même une certaine inquiétude concernant la paix sociale, là.
On est à croiser des chemins parce que.
Absolument, on est dans un carrefour.
Parce que là, il y a 36 millions de feux rouges dans plein. Feux rouges, c'est vraiment de signal d'alerte, là, alerte rouge. Dans plein d'industries, dans plein de domaines, majoritairement reliés à la surréglementation, la surtaxation, la sur-ci, la sur-ci, la sur-ça. Puis t'as quand même une classe médiatique qui, en fin de semaine, nous dit dans Le Devoir qu'il faut faire la guerre à l'auto. Puis c'est au moins, il faut le donner. Ils sont rendus que le masque, on va dire comme Yoda dans Star Wars, là, ils ont enfin fait tomber leur masque. Ils sont plus à moitié. Ah non, pas tant que ça. Ils veulent qu'il n'y ait plus d'auto nulle part. Ils sont en mode guerre pour sauver l'environnement, puis Gaïa, puis whatever. Fait qu'il y a comme une pure contradiction. Il y en a de bord qui veulent encore plus taxer, qui veulent encore plus imposer, plus réglementer.
Mais c'est assez, là. Excuse-moi, là, le peuple, là, écoute, j'entends les gens parler, justement, j'étais dans le bas du fleuve en fin de semaine, puis j'étais chez un de mes chums, je faisais des réparations chez eux, puis je parlais aux gens qui procédaient aux réparations, puis là, on s'est mis à parler de politique, bien entendu. Souvent, lorsque j'arrive à quelque part, c'est le sujet qui se pointe. Puis là, les gens là, qui étaient présents, ils disaient, regarde, c'est pas compliqué, là. Ils disaient, ça va péter, j'ai l'impression que ça va péter, les taux d'intérêt, vois-tu, moi, j'ai un de mes chums, je sais pas, je t'en ai parlé, qui a un de ses chums à lui qui a parlé que la prochaine montée du taux hypothécaire pour sa maison, là, ça va lui coûter 800 $ de plus par mois. 800 $. Ça, c'est 800 $ que tu ne mets pas dans l'économie. Ça multiplie ça par chaque tête de pipe qui va négocier son taux hypothécaire. Chris, excuse-moi, là, ça ne marche plus. Là. Arrêtez plus. Les seules solutions qu'ils nous trouvent, c'est nous taxer encore. Mais oui. Êtes-vous fous, gang de cab? Arrêtez. Le gouvernement est là pour représenter le peuple, l'intérêt de la nation, que vous soyez séparatistes ou pas, que vous aimez mieux rester dans le Canada, n'en demeure pas moins que c'est le même procédé. Là. Arrêtez d'imposer le monde. Puis là, en plus, au fédéral, ils ont augmenté l'imposition du gain en capital sur une vente au-dessus de 250 000, je ne sais pas, je le résume bien.
Oui, c'est ça.
Ils ont monté ça à 66,6. Pourquoi 66,6? Aucune espèce d'idée. Ceci dit...
À trois quarts. En fait, on tombe aux trois quarts. En fait, ça, c'était à moitié. Ouais, c'était 50 % fait qu'ils l'ont augmenté de 25 %
Ils l'ont augmenté d'un tiers, c'est ça?
C'est ça. Fait que en gros, c'était à 50 avant, on tombe à 66,6. Donc, là, on tombe à deux tiers et plus. Fait que...
Mais écoute, puis là, on pensait pas que ça allait arriver. Tu sais, la coalition Avenir Québec, on s'entend, comme Éric Duhem l'a dit, pour se faire élire, ils ont flashé à droite, mais ils ont viré à gauche. Mais si supposé être un gouvernement plus de droite, on va se le dire, alors que c'est réellement
pas le cas. Oublie ça, là. Excusez-moi.
Non, je le sais.
Après avoir demandé puis dire que là, nous autres, les tatas, le voisin du fédéral augmente son imposition en gain capital, le Québec fait la même affaire. C'est une politique socialiste, ça, mes chers amis. Là. Que je vous vois pas un si bon acte me dire encore que le gouvernement de la CAQ, c'est un gouvernement de droite après ça. Là.
Mais la seule façon
Puis moi, la question que je me pose aujourd'hui, excuse-moi de t'interrompre, mais ce qui me frustre un peu, là, je voulais dire que je suis biaisé. Oui, je suis un peu biaisé puisque je milite là-dedans. Chris? Excusez-moi, mais là, je parle plus comme l'analyste politique, mais c'est le terreau parfait pour un parti comme le Parti conservateur du Québec de fleurir. T'sais, avec justement les partis d'opposition qui pensent tout pareil à vouloir toujours plus imposer, plus taxer, le fédéral qui est en montée, la croisée des chemins qu'on est rendu. Pourquoi ça ne monte pas plus, Calvasse? Je veux dire, surtout en plus que la question se posait, puis j'écoutais Maurès ce matin... Donc pour vous, ça va être hier, mais pour nous, c'est ce matin, qui disait justement comment, avec justement l'arrivée d'Éric Lefebvre ou quoi que ce soit, mais comment les analystes voyaient un peu en lui une candidature plus modérée par rapport à ceux du Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime. Mais comment le PCC voit le PCQ? Est-ce qu'ils voient comme une gang de radicales d'extrême droite, puis eux autres sont des modérés? Est-ce qu'ils voient comme d'égal à égal? Est-ce qu'ils voient comme une nuisance qu'ils n'ont pas le choix de tolérer, sinon il y aurait l'air d'une gang de caves? Fait que c'est ça que je me pose la question, parce que j'en connais du monde au PCQ, puis c'est pas des radicales, là.
Sincèrement, c'est la même affaire à l'époque de l'ADQ. Tu sais, techniquement, le Parti conservateur du Canada aurait dû aller beaucoup plus... aller chercher les candidats, avoir un lien plus de proximité avec l'ADQ, alors qu'il est extrêmement proche du Parti libéral du Québec à ce moment-là. Pour une multitude de raisons, il y a une raison historique aussi, là, on pourrait en parler davantage à l'époque du Boris, de Brian Mulroney, Robert Bourassa, ensuite de ça, il y a des choses qui s'expliquent parce que c'était des fédéralistes, sauf que maintenant, justement, on va en parler, la candidature d'Éric Lefebvre, moi je pense, que pour le Parti conservateur du Canada, pour ceux qui veulent voter pour le Parti conservateur du Canada et qui pensent comme toi, il y a des flags rouges qui se lèvent, là. Pourquoi aller chercher Éric Lefebvre? Je comprends qu'il connaît Denis Lebel puis que c'était son coloc à l'époque, il était à Ottawa, blablabla. Tu sais, je veux dire, je peux comprendre certaines choses. Puis je te dirais même que souvent, je te dis qu'en politique, on additionne, on ne soustrait pas. Mais en même temps, tu sais, quand tu as passé par la CAQ, avec toutes les politiques qu'ils ont faites durant la crise covidienne, la dernière gestion de l'État, je veux dire, des finances publiques, et je pourrais en parler longtemps, il y a quelque chose qui m'agace là-dedans, sincèrement.
Ben, moi, de plus en plus, j'embarque dans la théorie d'Yann derrière tout ça, puis je trouve que c'est plate, mais ça n'a pas de sens. Par rapport à ça, je tiens à le dire, j'en connais plusieurs qui vont se présenter pour les conservateurs, je n'aimerais pas de nom, puisqu'il y en a qui sont confidentiels.
Au fédéral,
qui était au PCQ, puis je les considère pas comme des mous ou des gens pas brillants ou pas intelligents. Mais la théorie d'Yann, c'est que justement, c'est un peu de la faute de Lucien Bouchard. c'est qu'en gros, sachant que le Parti conservateur du Canada n'a plus, puis c'est vrai, il n'a plus besoin du Québec désormais pour se faire élire, mais que doit quand même avoir des députés au Québec, puis en ont. Tu sais, il y a un électorat conservateur au Québec qu'on ne peut pas le nier. Bien évidemment, ils ne veulent pas nier ça. Ils vont jamais cracher sur des votes. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas que, advenant justement un futur référendum, qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas si le PQ va se faire élire ou whatever, ils ne veulent pas avoir un caucus québécois avec des têtes fortes, hommes ou femmes, qui ferait un genre de Lucien Bouchard 2.0 ou qui serait plus rebelle, sachant que le Québec est plus volatile dans ses politiques que les autres provinces canadiennes. Fait que la théorie d'Yann, c'est carrément que Poilievre ne veut presque exclusivement des personnes faibles. Puis quand je dis personnes faibles, je parle pas en termes d'individus, je parle vraiment en termes de des gens qui vont suivre, des
convictions
au poids, des conditions très loyales, des Gérard Deltel, des Bernard Généreux de ce monde. Des yes men, des red Tory, mais du monde qui challengeront jamais le pouvoir, qui se lèveront jamais et mettront un point sur la table pour dire ça n'a pas de bon sens, il faut que le Québec. Non. Ils vont toujours dire oui, Pierre Poilievre.
Ah, mais tu peux pas gérer de même, je m'excuse, je comprends.
Je sais que tu peux pas gérer de même, mais ils peuvent se le permettre, le Québec les fait plus élire à cette heure. Fait que d'un côté, autant que je trouve ça chiant, puis je trouve ça plate, puis je suis pas d'accord du tout qu'il fasse ça. J'endose pas ça, c'est de la pure analyse. Ce que Yann a fait, puis j'adore, mais d'un autre côté, c'est
chiant. C'est pas dénué de sens.
C'est pas dénué de sens pantoute. Puis stratégiquement, purement politique, est-ce que c'est un bon choix pour les conservateurs d'aller chercher Éric Lefebvre pour Tabasco? Absolument. C'est un switch provincial, switch fédéral. C'est confirmé qu'ils vont gagner ce comté-là aux prochaines fédérales, ça c'est sûr et certain. Mais de là, j'entends dire que, puis c'est un très bon argument, que Yves Lévesque, que lui aussi, potentiellement, il va sûrement gagner son comté dans Trois-Rivières. Premièrement, qui avait parlé à Maurice.
Ça, c'est un vrai conservateur, Yves Lévesque.
Ça, c'est un vrai.
De Trois-Rivières.
C'est ça.
Un vrai conservateur.
Il parlait à Morin la semaine passée, puis il disait, premièrement, j'étais surpris, parce qu'au début, on se disait, ça doit être la gang de Poilievre du Québec qui ont dû pousser Éric Lefebvre. Semble-t-il que Yves Lévesque a été mis au courant que Éric Lefebvre était rendu au PCC à travers les médias, comme tout le monde. Fait qu'il n'a pas été consulté pour ça, de un. Puis, un argument qu'il disait qu'il était bon, c'est qu'il disait, moi, je me rappelle, durant la pandémie, il y avait beaucoup de gens du PCQ, du comté d'Athabasca, qui ont été manifestés devant les bureaux d'Éric Lefebvre durant la pandémie, qui est toujours, d'ailleurs, député caquiste contre les mesures et whatever. Mais là, ce que tu comprends pas, c'est que ces gens-là, au PCQ, ils ont le carte du PCC aussi, là. Puis ça se peut que tu gères les mêmes militants au fédéral, il va falloir que tu gères dans ton propre comté tes propres bénévoles qui manifestaient contre toi il y a à peine deux ans.
Ça, c'est ça. C'est,
fait que c'est comme...
Ça m'agace, c'est boiteux.
Ben autant qu'ils ont eu un rassemblement en fin de semaine à Victoriaville. Semble-t-il que ça s'est bien passé, puis il n'y a pas eu de chicane. OK, fine. Tant mieux si l'opération séduction se passe bien, mais ça reste...
Oui, mais parce que Pierre Poilievre est extrêmement fort actuellement. Là. Je veux dire, il y avait un point d'avance sur les libéraux. C'est pour ça que, ça chigne pas trop d'un brancard. Mais ça se met à mal aller, tu vas voir que les divisions vont arriver assez vite. Là.
Ben, c'est ça.
Moi, je suis comme un peu un orphelin politique là, par rapport à je suis un indépendantiste, mais que je ne me retrouve pas dans les politiques du Parti québécois à bien des égards. Mais ce que tu me racontes avec Pierre Poilievre, si c'est vraiment ça, sa stratégie d'avoir des gens faibles, c'est une raison de plus pour plus rester dans ce pays-là. Ce que je veux dire,
c'est que ça me fait chier parce que ça donne un peu raison au Bloc d'une affaire, puis ça me fait frustrer.
Ben, Bloc n'a pas raison sur tout, mais n'a pas tort sur tout non plus. Je veux dire, comme...
Plus tard que raison, mais c'est sûr que c'est pas...
Ben, à certains égards, tout dépendant de ton point de vue, mais c'est vrai que, je veux dire, il y avait le nez à côté, derrière à Trudeau pendant... Ils l'ont encore, d'ailleurs, pendant trop longtemps.
Pas juste ça, mais en général, ils ont...
Ils sont trop à gauche.
C'est ça, puis ils ont un chef qui est pur et simplement un menteur compulsif qui se fie sur la crédulité de son vieil électorat pour se faire réélire. Tu sais, ce que là, j'ai... Des adversaires politiques, je peux avoir un minimum de respect, mais Yves-François Blanchet, ça, il est dans le fond de la cale, je suis désolé. Là.
Mais c'est un excellent communicateur, par contre.
Ouais, communicateur de bullshit, mais communicateur dans le...
Écoute, en tout cas, on pourra en débattre longtemps. Là, n'en demeure pas moins, lorsqu'arrive un débat en français, c'est lui qui domine sur toute la ligne. Ouais. Puis, là, au prochain débat contre Poilievre, même s'il est plus habile en français... on se rend compte que c'est pas sa langue maternelle. Là. Il parle davantage
d'anglais. Il y a juste une journaliste anglophone, il faut qu'il fasse une question un petit peu pointue, sa voix 21, puis tous les médias du Québec le considèrent gagner les débats fédéraux. Là. Ça va pas grand-chose.
Non, mais je suis pas d'accord avec toi là-dessus pour les avoir écouté les débats, là, parce que tu sais, je suis une bébite politique comme toi. Là. On est des geeks politiques. Je suis obligé de te dire que c'est un excellent débatteur, Blanchette, là, sans l'ombre d'un doute. Maintenant, c'est politique, puis de la manière qu'a géré le Bloc dans les dernières années, surtout là, pendant la crise covidienne, là, je veux dire, j'en aurais long à dire concernant M. Blanchette, mais n'en demeure pas moins que, comme débatteur, c'en est un excellent.
Agree to disagree. Mais regarde, ça peut arriver des fois.
Oui, ça arrive, ça peut arriver, ça c'est clair. Mais on est là pour ça, c'est en toute liberté, hein? Mais, tu sais, je te parlais de finances publiques tantôt, tu me fais penser parce que je voulais t'emmener à un autre point, là. Tu sais, est-ce qu'on est encore en mesure de faire des projets qui ont d'allure ou des gros projets au Québec?
Non.
C'est l'histoire là, du pont d'Île d'Orléans là, qui a augmenté de 7 fois, une augmentation de 700 %. Je m'excuse, là. Ils ont bien beau me sortir toutes les maudites raisons là, qui ont sorti, puis les peaufiner, puis essayer de m'embarquer là-dedans. J'avalerai jamais cette couleuvre-là de mon existence. Ça n'a plus aucune commune mesure ce qui se passe. Il va falloir que ça arrête. Tu sais, il y en a des fois, je m'ostinais avec quelqu'un sur Facebook justement concernant ça. Il dit mais là, il y a l'augmentation, tu sais, l'inflation. L'inflation, là, ça n'a pas augmenté de 700 %. Là.
Surtout
aux États-Unis, ils sont capables pour le pont de Baltimore, je pense, c'est évalué là, pour le refaire 400. En bas de 400 US.
400 US.
Donc, ça fait quoi, 600 Canadiens, grosso modo?
Ouais, et puis un pont de 10 km au lieu de... Ben, je dis 10 km, excusez-moi, je vais retrouver les... En tout cas, c'était beaucoup plus long, puis c'était pareil, puis c'était 4 voies.
Et non, c'est le double facilement, on peut s'entendre là-dessus. Ouais, quasiment le double en superficie. Puis ça coûte 600 millions Canadiens. Nous autres, on en a fait à 2,7 milliards. Mais je veux dire, il va-tu y avoir des enquêtes à un moment donné là-dessus?
Non.
Non, mais c'est ça! Comprends-tu pourquoi les gens sont tellement rendus cyniques envers la classe politique québécoise et canadienne? Je veux dire, on se fait bourrer.
Depuis que j'ai l'âge, excuse-moi de te couper, mais depuis que j'ai l'âge de Bastarache, c'était en 2010, Bastarache, j'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais 16 ans. Depuis la commission Bastarache, là, puis la commission Charbonneau qui est venue par après, là, j'ai découvert, comme jeune tripeux de politique, que des commissions parlementaires, là, ou les commissions d'enquête, excusez-moi, les commissions d'enquête sont des pièces de théâtre publicisées qui nous coûtent des millions de dollars en fonds publics, puis qu'en gros, tout c'est uniquement un plaidoyer, un à suite de l'autre, de tous les gens qui nous ont fourrés collectivement au Québec. Tout ça télévisé à nos frais, puis qu'à la fin tout de ce processus-là, il y a un rapport qui se vient souvent tabletté, puis qui n'ose pas se pencher d'un bord comme de l'autre, puis tout le monde qui vous ont expliqué comment ils vous ont fourré, il n'y a aucune accusation criminelle. Fait que le Christie de commission d'enquête, là, tu sais, sérieusement, là, puis mon but, c'est pas de dire, mettons, pour le dire comme la COVID, faut pas faire, oui, ça, je comprends, c'est plus en termes de recherche, puis trouver la vérité, tout ça, puis le public va décider. Mais sérieusement, là, faut changer ces méthodes-là d'enquête aussi, parce que encore là, c'est de l'apparatchik, c'est rien que du... C'est du fonctionnariat, comme dirait Jean Saint-Ève, c'est faire fonctionner le fonctionnement avec des fonctionnaires.
Oui, oui, mais rappelle-toi la dernière commission d'enquête au fédéral là, sur les camionneurs. Ouais. La ministre des Finances, l'ancienne journaliste. Là,
Chris ils ont été forcés de le faire, parce qu'en passant, oui. C'est pas... À cause, la loi le prévoyait, mais si elle avait choisi, elle n'aurait jamais fait une.
À un moment donné, tu la vois, là, elle l'a fait. Elle comprenait pas, c'est-à-dire que moi, ce que j'en ai déduit, là, je suis pas sûr de mon affaire, mais je suis pas mal, je suis certain, mais pas à 100%, c'est qu'elle n'attendait plus les réponses qu'on lui donnait là, pour qu'elle puisse les dire. Là. Je veux dire, c'était complètement ridicule. Tu avais l'impression que c'était quelqu'un qui disait quoi dire. À un moment donné, je pense que ça a arrêté de fonctionner, la technologie étant ce qu'elle est, puis ça a apparu devant tout le monde. Elle comprenait pas, elle pouvait plus répondre. Elle savait pas quoi répondre parce que le gars qui soufflait réponse, ça marchait plus. Ça faisait penser un peu dans l'émission de la petite vie qui avait été à Tous pour un, là, Rénal, le cheap. Puis là, que c'est sa femme qui disait donner réponse, puis à un moment donné, elle a échappé le micro des toilettes. Ça faisait penser un peu à ça. Je veux dire, c'est complètement ridicule. À un moment donné, il va falloir que les gens se réveillent, puis écoute, il y a rien qui m'indique qu'on va améliorer nos conditions. Puis, sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs là, qui t'écoutent, qui nous écoutent présentement, qui sont des fans, tu sais, qui pensent que le Parti conservateur de Pierre Poilievre va faire la différence. Je vous le souhaite, parce que si ça continue de même, qu'on rembarque dans les mêmes régines, là, je veux dire...
Mais faut pas oublier que même à tout ça, puis c'est pour ça... Autant que je vais voter pour Pierre Poilievre, je pense qu'il y a quand même des bonnes idées, puis bien évidemment, tout sauf Trudeau, je suis bien content de ça, puis ça prend absolument un retour du balancier, mais n'oubliez jamais que le Parti conservateur du Canada reste un des deux partis d'establishment au Canada.
Ah oui.
Avec
oui.
Les libéraux. Autant qu'ils sont moins pires que les libéraux, mais ça reste un parti d'establishment pareil. Oui, ils ont Poilievre, oui, il a l'air d'être plus proche du monde, good for him, je pense, je le crois, je pense pas que c'est un menteur, mais ça reste que on parle pas d'un parti rebelle. Est-ce qu'il y a un nouveau leadership qui est plus rebelle que ses prédécesseurs? Je suis prêt à le dire, oui. Est-ce que ça va faire toute la différence? Est-ce que le pouvoir va pas, justement, le establishmentiser? En tout cas, vous comprenez un peu ce que je veux dire, là, tu sais, le faire rentrer dans ma chaîne. L'avenir nous le dira, j'espère pas.
Ben, tu sais que Pierre Poilievre, il a voté pour qu'on garde le serment au roi, là. Alors que
c'était stupide, là, personnellement.
Non, mais alors que, écoute, le gars, que c'est un député acadien du Nouveau-Brunswick, je pense, là. Ouais. Tu sais, ce qu'il disait, là, dans le fond, moi, parce que j'ai écrit un texte localement en lien avec Bernard Généreux, voir ce qu'il pensait de ça. Et ça donnait le choix aux gens, aux députés, de voter. C'était optionnel, en d'autres termes. Soit que tu votais là, pour la nation canadienne, maintenant je ne me souviens pas c'est quoi les termes, ou que tu continuais avec le vote envers le roi Charles, c'est quoi, III, je ne me souviens pas, Charles III, bon. Puis pourquoi? Il aurait dû voter comme le caucus québécois conservateur qui a voté contre, qui a voté pour, je veux dire. Non, puis à la fin, l'insulte, c'est que lorsque ça n'a pas passé, ils se sont mis à chanter le « God save the king ». Excuse-moi, là. T'sais, comme indépendantiste. Là,
ça, c'est le côté canadien-anglais que je comprends toujours pas. Là. Personnellement, j'ai l'impression qu'encore là, on parle de la classe politique. Est-ce que les Canadiens-anglais, est-ce qu'il y en a encore des monarchistes? Il doit en avoir, je veux dire. C'est comme les communistes, là, ils sont une petite gang, puis y a-tu vraiment des grands tripeux, surtout. De la reine, c'était tel que tel, mais le roi.
Ouais, parce
Charles,
que t'es apprécié. La reine, sincèrement, là, tu sais, je veux dire.
Oh, ouais,
écoutez, ça faisait tellement longtemps qu'elle était là, faisait partie des meubles, puis lorsqu'elle arrivait au Canada, elle parlait en français. Je veux dire, ça se comprenait un peu plus, sincèrement. Mais l'autre, là, qui a autant de charisme qu'un poteau au saumon, là, tu sais, puis qui est plate comme la pluie, puis tu sais, t'as le goût d'y faire un saut chassé dans le dos lorsque tu n'entends parler, lorsque tu le vois. Je sais pas pourquoi je comprends pas ça, mais en même temps, ça prouve une chose. Tu sais, ça prouve qu'on est des conquis, puis que pour ces gens-là, on leur appartient, puis c'est encore le roi. Pis
surtout que
l'historique britannique. Je peux les comprendre d'une certaine façon. Ce que je dis, ça prouve que c'est pas nous autres. Là. Je veux dire, on n'est pas comme eux autres. Là. C'est pas compliqué.
Non, puis le droit de réserve des monarques britanniques n'est plus là. La reine l'a respecté, mais. le roi Charles, on sait où c'est qu'il danse, là. On sait aussi de quelle position il se trouve, puis sur quel enjeu il fait. Il a tellement fait de militantisme dans ses années de princage que là, on sait de quel bord il se trouve. Fait que
la neutralité, il est très, très proche du Forum économique mondial, Forum économique de Davos.
Oui, hein. Il a toujours été très, très green, très agro.
Mondialiste, très, pas compliqué.
Très, très progressiste, tu sais ça, très, très Justin Trudeau, finalement. Là. Fait que,
ben absolument. En tout cas, peu importe. Là. Ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, je ne me retrouve pas. Je comprends que les conservateurs, ils ont quand même des idées là, de bonne gestion des finances publiques. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Tout n'est pas mauvais, absolument. Sauf que, n'en demeure pas moins que, tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit des gens se faire élire sur des positions, puis lorsqu'ils arrivent en place, ils font le contraire. Ben, le dernier exemple qu'on a eu, le patent, c'est la Coalition Avenir Québec. Ils se sont fait élire là, avec un programme là, qui est beaucoup plus à droite avec du développement économique, développement des hydrocarbures. Le plan Saint-Laurent, mon ami, regarde-le aller, là, je veux dire, c'est une vraie farce.
Non, non, absolument. Écoute, ça, on va voir. Mon but, c'est pas de vous dire voter pour le Bloc. Vous voyez bien que c'est ça. Je suis pas très fan en toi, entre guillemets. Là, fait que ça va prendre un bon bout avant que je revote pour eux autres. Là. Mais sérieusement, c'est ça. Il faut juste pas oublier. Puis c'est une des raisons aussi. Puis c'est au-delà de mon indépendantisme ou quoi que ce soit. Tu sais, comme j'ai déjà dit dans un de mes bulletins de nouvelles, pour que je m'implique au fédéral avec, bien évidemment, le Parti conservateur du Canada, il faudrait que ce soit le PCC, mais avec la position en immigration du PPC. Tu sais, en gros, un Parti conservateur du Canada, mais avec une politique immigrationniste considérablement réduite, puis qu'on soit plus demain. Puis c'est ça qui est un peu le problème, c'est que le Christine multiculturalisme à marde. Puis ça, c'est pas sur le Canada, là. Puis c'est pas une question de pas aimer les immigrants. C'est rendu que les politiques étrangères des nations sont même plus distinctes. C'est les diasporas qui les choisissent, Sibonac. Ça me fait chier. Puis c'est pas une question de dire je suis intolérant contre un ou de l'autre. C'est que c'est rendu justement la seule raison pour qu'on appuie l'Ukraine au Canada, parce que justement, on a la plus grosse diaspora sur la planète. C'est même pas une question de savoir si le Canada a gagné ou pas de cette alliance-là. Quand on parle de l'affaire de la Palestine, la raison pour laquelle le Canada est en train de reculer, puisque justement, il y a des manifestations tous les jours de gens d'origine du Moyen-Orient que, semble-t-il, n'ont pas compris quand tu viens au Canada. C'est pas pour répliquer ton ancienne nation en 2.0 en sol canadien, malgré que Trudeau a quasiment dit « faites le don, ça serait bien le fun qu'on le fasse ».
Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres politiques avec Pierre Poilievre? Je veux dire, Pierre Poilievre fait aussi beaucoup de clientélisme politique. T'sais, je veux dire, c'est indéniable. Je veux dire, là, il a souhaité joyeuse Pâques à tous les chrétiens. Ben, bon, c'est un chrétien, il a le droit. Mais ensuite de ça, il y a eu une autre fête religieuse. Il a procédé à la même chose. Sincèrement, j'ai de la misère actuellement.
Joyeuse Pâques, c'était extrême, là.
Non, mais est-ce que je veux dire, là, c'est pas question, est-ce que c'est vraiment nos politiciens qui mènent ou on a juste des bâtisses de marionnettes?
Ouais, le bon vieux George Carlin, c'est ça, the owners of this country. Hein,
je pose la question, puis j'ai pas la réponse, là, parce que j'ai pas l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction. Oui, les gens ont beaucoup d'attentes envers Pierre Poilievre, mais on va y laisser 2-3 ans, parce que c'est pas mal lui qui va être élu, je suis pas mal certain, là, à moins qu'il arrive un drame monumental ou un scandale du pas possible. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire. Puis si on arrive avec un référendum, parce qu'au provincial, possiblement que c'est le PQ qui va être élu, on sait pas de la manière que ça va arriver. J'ai bien hâte de les voir de la manière qu'ils vont se comporter. Parce que les dernières fois qu'on a eu des référendums, ça a toujours été avec un gouvernement libéral fédéral.
Rouge!
Si on fait référendum avec le Parti conservateur du Canada, à la tête du Canada, justement, je veux dire, ça risque d'être différent, là, puis pas à peu près. Puis en passant, je sais que Éric Duhaime dit que Pierre Poilievre a beaucoup plus d'ouverture concernant l'immigration, oui, mais je pense pas que Pierre Poilievre va nous céder l'immigration. Ça, je suis pas mal
certain. Non, pas en tout.
Ça veut dire...
Il va être peut-être plus ouvert à négocier sur certains trucs, mais nous le donner comme condition sine qua non, on oublie ça.
T'as vu le dossier là, qui s'est un peu saucé là, du Journal de Québec concernant les francophones au Canada?
Oh, ça, personnellement. Là, ouais.
Non, mais je sais qu'il y a un peu de sensationnalisme. N'en demeure pas moins que les faits sont vrais là aussi. Là. Je veux dire, tu sais que le français recule partout. C'est juste la manière qu'ils l'ont amené. C'est du journalisme à la Québécoise. On comprend de la manière qui fonctionne. Mais quand même, je veux dire, est-ce qu'on a réellement un avenir dans ce pays-là? J'en ai parlé longuement dans le passé. Je pourrais t'en parler encore, puis je vais sûrement en parler dans le futur. Mais il va venir un temps qu'on n'aura pas le choix de prendre une décision, ou sinon on est appelé à devenir un genre de Nouveau-Brunswick au Québec, là, où tu as des endroits que ça parle juste anglais, tu as des endroits que ça parle français, que c'est plus, ce ne sera plus comme on a connu dans un passé pas si lointain. Ça, c'est mon opinion, ça ne regarde que moi. Ah, mais moi, ça m'inquiète. Parce que le bilinguisme au Canada, c'est un échec total, j'espère qu'on le sait.
Oui, le bilinguisme officiel, oui, mais le bilinguiste, comment je peux dire ça? Je pense que le nouveau produit qu'on est quand même un bon exemple aussi pareil. Là, autant que c'est ça, c'est...
Non, mais le français recule là aussi, mon vieux. Là.
Oh, je le sais, mais c'est juste que, à un moment donné, c'est le même exemple que je donne tout le temps, là, que j'ai déjà parlé souvent avec toi, là, à quel point qu'aussi, il y a une part... On a une part de responsabilité là-dedans. Là.
Non, mais je le sais, je suis d'accord avec toi, c'est clair. On a une part de responsabilité, sans l'ombre d'un doute.
On rayonne pas une fierté qui incite les gens à apprendre la langue. On rayonne, comme dirait Michel Chartrand, d'un sentiment de peu heureux.
Non, mais ça, c'est vrai. Puis de reste, ce que tu dis.
Puis de retour sur soi, puis on s'embarre tout dans la maison, puis on sac la clé par la fenêtre. Tu sais, c'est... Je suis désolé, mais c'est pas que j'aime pas mon Québec en disant ça, mais il faut que je dise la vérité. Chris, on n'est pas attirant. Calvaire. Le monde qui arrive ici, c'est que les seuls qui émigrent ici parce qu'ils sont désespérés, ils quittent leur pays de cul, puis contrairement à n'importe quoi d'autre, même le Québec, c'est meilleur que chez eux. Il y en a très peu qui se disent « Wow, quelle belle nation, quelle belle affaire ». Hey, je travaillais dans une usine de plastique il y a plusieurs années. On avait reçu une douzaine d'immigrants français. Je te confirme qu'il y en reste juste deux aujourd'hui. De ceux qui ont resté, du moins, à moi qui
est retourné. Français de France?
Français de France!
OK.
J'étais pas capable. Et ça, je voulais dire, c'est superficiel. Il y en a que c'était la température, il y en a que c'était le salaire, il y en a que c'était, en tout cas, plus fine bouche que des Guatémaltais ou des Philippins.
Oui, il y a toutes sortes de raisons.
C'est ça.
Mais c'est vrai, c'est clair ce que tu dis. Tu as une partie de la réponse.
Je dis pas non. Que le fédéral puis le Canada.
Mais ça se fait dans les deux sens.
Ça, c'est ça. Mais, c'est juste que c'est ça. C'est que tu vas être neutre indépendant. Puis je sais que le Québécois oublie ça. Là, c'est du wishful thinking de demander ça. Là. Mais dire que c'est toute la grosse attention grand méchant loup. Puis c'est toute la faute du fédéral. Non.
Okay. Mais je ne le perçois pas de même. Sincèrement, je ne le perçois pas juste comme ça. Moi. Ce que tu dis, tu as une partie de la vérité. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus les efforts qui se font l'autre bord. Tu sais, ça va deux fois plus vite, entre autres termes. Si on avait une grosse résistance et une grosse fierté ici, ça serait une autre paire de manches. On combattrait, tu sais, on serait pas mal plus fier. Je dis agressif, peut-être pas le bon terme, mais on serait plus ferme, du moins. Là, on commence à se réveiller parce qu'on se rend compte que ça fonctionne pas. En d'autres termes, des deux bouts, on se fait manger. Là.
Mm.
C'est ça qui arrive. Il faut que ça change. Puis rapidement, à part de ça, parce que ça m'inquiète. Sincèrement, ça m'inquiète. Tu sais, comme moi, là, je veux dire, moi, je... Bon, mais comme je le dis toujours, mon cœur est français et il va le demeurer, mais en même temps, je ne suis pas sûr que si je représente la majorité au Québec, là, bon, au moins, il y a quand même un éveil. Il va falloir que ça bouge davantage. Mais il ne faut pas se fier sur le fédéral pour régler nos problèmes. Il faut qu'on se prenne en main. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il faut refouetter notre fierté nationale. Et ça presse. Je ne sais pas depuis quand, écoute, je suis un peu plus vieux que toi, là. Je te dirais que depuis 1995, ça a baissé en 2000. Puis je te dirais qu'entre 2000 et 2024, là, où ce qu'on est actuellement, là, une multitude de raisons ont fait en sorte qu'on a perdu cette fierté-là. Ah, on sait.
La fierté, ça passe uniquement par des subventions à cette heure.
Ben, exactement, oui, ça, je te l'accorde. Ça,
encore là, le monde ne l'écoute même pas.
Non, mais C'est de la fierté placebo.
C'est de la fierté quasiment artificielle.
Mais oui, tu sais, avec les paniers bleus, toutes des patentes qui ont fermé après un an, là, que ça nous a coûté les yeux de la tête pour avoir que dalle de résultats. Il va falloir éventuellement changer la classe politique. Il va falloir rebrasser la cage. Il va falloir avoir des leaders qui aiment le Québec, qui veulent servir l'État pour le bien-être suprême de la nation, parce qu'on est une nation. Là, au moins, malgré tout, je sens un réveil. C'est pour ça que je suis quand même satisfait de voir ça. Satisfait, peut-être pas, mais je suis content de voir que ça grouille un peu. Maintenant, ça grouille pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite, pour garder le Québec français, garder notre passé, nos origines, et nous remettre de la fierté? Bien entendu, ça va prendre de la fierté. Et ça, j'ai hâte que ça arrive. Mais tu sais, ça grenouille quand même. Là. Je veux dire, ça grenouille beaucoup en politique, notamment, là. Le podcast Yann et Frank, ça fait bouger des choses, peut-être pas du côté comme j'aimerais parce que c'est pas tant de nationalisme, mais malgré, ça dit des vérités, ça réveille, ça brosse la cage parce que le modèle québécois, il est à bout de souffle et pas à peu près, mon vieux.
En tout cas, je le souhaite là, qu'on change la classe politique et m'a dit comme Liam Neeson dans l'enlèvement, bon chance.
c'est ça, bon chance.
On souhaite que ça arrive, mais c'est ça. Il faudrait quasiment faire table rase ou mettre des term limits ou whatever parce que C'est ça. Donc, ça semble plus un Botanix que la maison du peuple. Fait que on va terminer. merci beaucoup.
Plaisir, mon cher ami.
Toujours un plaisir. On se revoit dans 2 semaines. Sinon, bonne journée tout le monde.